Mamzelle Bulle. Mamzelle Bulle sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, 18h sur Radio Campus Paris, l'heure de votre dose hebdo de bande dessinée en mode audio. Et cette semaine, c'est au talentueux Alexandre Cléris que j'ai tendu mon micro. Après Souvenir de l'Empire de l'Atome, il signe avec Thierry Smolderen chez Dargaud, L'été diabolique.
Diabolique, c'est une bande dessinée des années 60 qui a été créée par deux sœurs en Italie, qui a fait une série de romans bande dessinée pendant pas mal d'années, qui continue d'ailleurs à être publiée encore aujourd'hui, et dont un film a été tiré en 1968, je crois, qui s'appelle Danger diabolique, par Mario Bava, voilà, sur une musique d'Ennio Morricone. Notre travail sur, autour de ce personnage a été de le mettre dans notre décor, en fait, dans un décor estival des années 60, autour d'un adolescent en fait, qui redécouvre ses bandes dessinées et qui voit apparaître le personnage dans la vie réelle.
Et vous, personnellement, est-ce que vous connaissiez Diabolique, ou est-ce que c'est le scénariste qui vous l'a fait découvrir au moment de la réalisation de cet album ?
Moi, je ne connaissais pas personnellement Diabolique. Thierry Smolderen, qui est plus âgé que moi et qui a vécu donc, à cette période-là, connaissait très bien les romans. Et du coup, lui, il a eu une espèce de vision comme ça d'un personnage dans une voiture qui voit dans son rétroviseur un masque, le masque de Diabolique qui le poursuit. Donc ça lui a rappelé toute une période de sa vie. Et parallèlement, il a redécouvert le film qui a une esthétique très pop. Et du coup, on est parti sur cette histoire-là. Et moi, j'ai découvert par le biais du film, je suis retourné voir les bandes dessinées. Mais c'est quand même un personnage qui fait partie presque du décor de l'histoire, en fait.
Justement, comment est-ce que s'est construit cette histoire autour de ce personnage, Antoine, donc, qui a 15 ans et qui donc passe cet été 67? Comment ça s'est construit et comment s'est fait notamment la construction en deux temps, puisqu'après on le retrouve 20 ans plus tard? C'était l'idée de départ, ou bien est-ce que cette construction a évolué au fur et à mesure de la construction du récit?
Alors l'idée, c'était, je pense, ça, c'est plutôt Thierry qui pourra en parler mieux que moi, mais de créer une sorte de faux roman, enfin de comme si le personnage principal racontait son histoire dans les années, en tant qu'ado dans les années 60, mais beaucoup plus tard. Donc il y a une première partie qui est construite un petit peu avec une voix off qui fait penser plus à une écriture de roman. Et la deuxième partie permet de dénouer, en fait, suite à la publication de son faux roman, il retrouve des personnages de l'époque qui lui redonnent des clés sur le mystère qui n'était pas éclairci. L'idée, c'était justement de rester un petit peu sur notre fin dans la première partie, puis voilà, de drainer le mystère jusqu'à la dernière case, quoi, et le plus longtemps possible, avec des chamboulements et des fausses pistes qui amènent à perdre le lecteur pour finalement découvrir une chute dont il ne se doutait pas du tout.
On voit que des années plus tard, des choses peuvent se démêler, que les personnes qu'on croit connaître, finalement, on ne les connaît pas forcément. C'est une dimension qui, au-delà du côté intrigue, mystère, c'est quelque chose qui vous avait plu aussi, cette dimension très humaine, finalement ?
Tout à fait. Ouais, l'idée, c'était de pas rester dans un roman purement d'espionnage, mais de le mixer avec quelque chose de plutôt psychologique autour du personnage principal. Et aussi d'avoir justement un côté un peu intimiste, un peu volubile, qui détourne un petit peu l'attention sur la trame plus sombre, en fait, du personnage. C'est vrai qu'on est dans un thriller très très construit, mais au final le thème et le fil conducteur reste vraiment une réflexion psychologique sur la place du père pour un jeune garçon qui commence à se poser des questions sur le passage à l'âge adulte et sur un peu l'image d'un père qui peut être mystérieux et du passé d'un père et Voilà, donc c'est vraiment plus une réflexion autour de ça, greffée dans une fiction à rebondissement. Quoi.
Et il y a quelque chose d'autre qui, j'allais dire, qui fausse les pistes, mais non, finalement, qui enrichit encore l'album, c'est justement le dessin. C'est-à-dire qu'on est là encore pas dans les codes du roman d'espionnage. J'ai l'impression que ça explose un petit peu les codes, et c'est là-dessus que vous avez aimé jouer aussi, c'est-à-dire fausser les pistes aussi à travers le dessin, finalement.
Tout à fait, ouais. C'est, l'idée à chaque fois, c'est de prendre une époque et de la revisiter graphiquement. Donc, en fait, au lieu de reprendre les codes de l'espionnage ou des choses comme ça, on a repris plutôt l'esthétique en fait, des illustrateurs de l'époque. Mais pas seulement, il y a aussi le design, l'architecture, la mode, la publicité. Et à chaque fois, en fait, on étudie un petit peu, on remet en avant des auteurs oubliés. Et on étudie les codes en fait de cette société.
Et vous vous êtes éclaté à faire ça ?
Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un travail très enrichissant parce que ça permet d'aller voir des choses qu'on n'irait pas voir spontanément. Retourner voir des auteurs un peu oubliés. Regarder des films, découper des séquences pour comprendre les ombrages, la lumière dans un film noir. Tout en essayant de bien souffler un côté pop et... Moi, c'est un travail laborieux, mais toujours enrichissant. Quoi.
Et justement, vous parlez d'auteurs. Quels sont les auteurs, les artistes qui vous ont justement inspiré pour cet album, soit que vous connaissiez déjà, soit que vous avez redécouvert pour l'occasion ?
Il y a un hommage assez flagrant à Guy Pellart, qui est un auteur qui était à l'apogée en fait, de ce style-là, du style pop. Mais en fait... Plusieurs auteurs étaient combinés aussi dans cette esthétique dont on a une imagerie assez vague, mais en fait, il y avait des auteurs comme Tito Taupin, des auteurs italiens, espagnols. En fait, un style ne naît jamais seul par un seul auteur. En fait, c'est toujours plusieurs auteurs, une combinaison de plein de personnes qui va développer un univers graphique et combiner... et piocher dans les univers des autres et arriver à donner une imagerie, un style, quoi. Mais à l'époque, il y avait un retour à l'art déco, au côté floral, au motif, combiné avec les couleurs de l'Inde, en fait, la découverte de l'orientalisme un petit peu, le retour avec des couleurs, le rose et l'orange, du bleu, des couleurs un peu primaires et l'arc-en-ciel. Donc c'est toute cette esthétique-là en fait qu'on est allé rechercher, mais aussi dans la publicité, dans les illustrateurs de mode, dans les cinéastes. Enfin, il y a vraiment des tas de références en fait à chercher. Mais on peut aller voir sur un site internet qu'on a créé pour l'occasion où on donne un petit peu une biographie de tous les ouvrages qui nous ont aidés à construire un petit peu notre histoire. C'est le site été diabolique tout attaché .wordpress.com.
Et dans cet exercice, qu'est-ce qui a été le plus compliqué justement, c'est de trouver, c'est vrai que ce qui marque c'est beaucoup les couleurs, c'est de trouver le bon ajustement entre les couleurs pour que ça éclate mais en même temps que ça reste de très bon goût. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre?
Ça c'est difficile à savoir, mais oui, l'idée c'est comment arriver à faire beaucoup de références à des auteurs, à d'autres dessinateurs, tout en gardant un petit peu de moi en fait dans ce travail-là et en me perdant pas dans la référence. L'idée c'était pas de faire quelque chose de nostalgique, mais plutôt quelque chose de contemporain, enfin une bande dessinée de 2016. Donc ça c'est aussi en m'intéressant à tous les auteurs contemporains, enfin aux dessinateurs actuels, d'autres dessinateurs de bande dessinée, mais aussi des illustrateurs. Je pense que c'est comme ça que j'arrive à garder un petit peu un recul là-dessus, mais je n'ai pas la recette de ça, je ne pourrais pas le décrypter en fait.
Quand on vous écoute, on entend qu'il y a eu beaucoup d'échanges justement entre vous deux. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté justement de plus personnel à cette histoire ?
Ben, c'est vraiment un travail d'amitié avec Thierry Smolderen. Et donc lui m'apporte beaucoup de livres, beaucoup de films. Et on en discute, on en reparle. Et après, moi ce que j'apporte, c'est peut-être mon âge peut-être, enfin je suis plus jeune, c'est aussi que je travaille beaucoup sur ordinateur, donc la technique par informatique permet justement de pas être dans le pastiche d'un style, mais de donner un peu de distance et de pouvoir recomposer avec le scénariste aussi les pages et faire une sorte de montage de la bande dessinée à la fin et de pouvoir toujours recalibrer en fait notre histoire, changer des mises en page, agrandir des cases. Donc c'est toujours quelque chose de très mobile jusqu'à la dernière touche de l'album, quoi.
Et par rapport aux personnages en eux-mêmes, comment est-ce que vous les avez trouvés physiquement, même s'ils ne sont pas très, très marqués, mais quand même, est-ce que vous vous êtes inspiré de personnes que vous connaissez, de couples parents-fils que vous pouviez connaître, ou en tout cas, comment est-ce que vous les avez créés ?
Là, j'ai essayé sur le personnage principal de... Même s'il a une touche un petit peu dans la coupe de cheveux qui peut être un peu qui fait un peu référence à l'époque, mais j'essaie de le faire le plus lisse possible, on va dire, pour que puisse être identifiable à un peu à pas mal de personnages, enfin pas mal de personnes, quoi. Et le père, c'était vraiment dans l'attitude, dans ses costumes en fait, qu'on a travaillé son caractère en s'inspirant plutôt de Mad Men ou des choses comme ça dans les postures des personnages. Donc là, on est allé voir dans les livres, les revues de mode de l'époque, où il y avait pas mal de personnages dans des poses, dans des attitudes. Son côté mystérieux devait venir de cette espèce de costume en fait, qui se donne. Parce que, je ne vais peut-être pas spoiler, mais le personnage a un passé qui est complètement différent du caractère en fait, qu'il donne dans l'histoire. Voilà, c'était vraiment par ce biais-là, quoi, essayer de lui donner une sorte de faux-semblant par le costume, quoi.
J'imagine qu'on le sait jamais à l'avance, mais c'est vrai que L'été diabolique a reçu beaucoup de très bonnes critiques, ça a eu un très bon accueil. Est-ce que quand, au moment où on le réalise, un album, on le sent, ça, que finalement on touche quelque chose vraiment et qu'il y a quelque chose de plus, en tout cas quelque chose de particulier dans ce qu'on est en train de faire ?
Non, pas du tout. Ça, c'est heureusement qu'on travaille avec d'autres personnes. Heureusement, Thierry Smolderen est toujours là pour m'encourager, pour me dire « Ouais, c'est bon, on est dans la bonne piste et tout ça. » Même les éditeurs chez Dargo. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps en train de douter. Pour moi, jusqu'à ce que l'album soit paru, je pensais être un peu à côté de la plaque. Enfin, je ne savais pas trop si ça allait vraiment parler au lecteur. Ça reste vraiment un mystère, quoi. L'idée, c'est de s'éclater le plus possible quand on le fait, sans penser à ce que ça peut donner, mais en essayant de donner envie en fait, aux gens de rentrer en fait, dans notre délire. Mais ça, ça ne peut pas se calculer, quoi. C'est en essayant d'être le plus sincère possible qu'on arrive à toucher les autres. Mais des fois, ça basse, des fois, ça ne marche pas non plus. Donc, on est toujours en train de douter, quoi.
Et vous parlez de délire. Comment est-ce qu'on aborde une planche où on doit dessiner un personnage sous LSD ?
Ça, c'était... En fait, cette partie-là qui pourrait paraître très très libre et très, très improvisée, ainsi de suite, a été vraiment très très construite. Et justement, c'était un des nœuds de l'histoire où toutes les références graphiques au psychédélisme devaient transparaître, quoi. Donc là, je suis allé me plonger dans des séquences de films qui évoquent ces parties-là, un travail des éclairages, des lumières, des cadrages, des flous. Et puis après, tous les auteurs, dont tout à l'heure on parlait de Guy Pellart, puis bien d'autres, quoi. Et donc essayer d'arriver à combiner tout ça pour être... Non, ça a été fait de façon très sobre, en fait. Et c'est peut-être d'autres parties qui peuvent être plus poétiques dans les parties de balade dans la nature ou les scènes de paysage qui seront peut-être plus improvisées, on va dire, au final.
Merci beaucoup.
Merci, bonne lecture.
L'été diabolique, c'est d'Alexandre Cléris et Thierry Smolderen, chez Dargo. Mamzelle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h sur Radio Campus Paris, pour une nouvelle rencontre avec un auteur de bande dessinée. D'ici là, je vous souhaite plein de belles lectures.